Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce lundi ensoleillé, mais pas chaud chaud, 19 mars, et c'est demain qu'arrive le printemps. Hélène Denis qui vous accompagne et qui salue vous, chers auditeurs, ainsi que mon collègue Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Comment allez-vous?
Fort bien, hâte oui. Au printemps, hâte à la chaleur surtout.
Oui, oui, bien ça s'en vient. Il faut être patient, mais ça s'en vient. Alors, est-ce qu'il y a des événements intéressants à souligner en ce 19 mars ou des anniversaires aussi?
Mais oui, nous sommes en ce 19 mars, la journée internationale de la cuisine italienne.
Oh!
On est à la 11e ou 12e édition de cette journée internationale et chose quand même assez rare, pour cette année, on a choisi de déplacer la date de la journée internationale.
Ah ouais?
Avant ça, on fêtait ça à la mi-janvier, mais depuis 2018, on souligne ça le 19 mars en l'honneur d'un très grand chef italien dont son anniversaire tombait un 19 mars.
D'accord, j'allais faire une blague un peu plate, mais le chef italien, est-ce qu'on le nomme dans l'information que vous avez?
On le nomme, je n'ai pas son nom sous les yeux, mais ce n'est pas ni un Gattuso, ni un autre nom très connu. Donc, avec une grande réputation, j'imagine, auprès des connaisseurs.
Oui, mais, oui. Alors, on va manger italien en cette journée italienne.
Absolument, j'ai justement du spaghetti pour dîner.
Ah, oh, bon appétit à l'avance.
19 mars, en 1314, Jacques de Molay, grand maître des Templiers, est brûlé vif sous le roi Philippe IV le Bel. 19 mars 1796, en France, instauration de la liberté de presse. 1895, tournage du premier film, le film La sortie de l'usine Lumière à Lyon, par bien sûr les frères Lumière. 1931, un 19 mars, l'État du Nevada légalise le jeu, l'État du Nevada étant l'État dans lequel on retrouve bien sûr...
Las Vegas,
cette capitale du gambling.
Et du mariage.
et du mariage express dans une chapelle minute par Elvis Presley. 1937, à Ottawa, adoption d'une loi interdisant de prendre part à la guerre civile d'Espagne. Cependant, des milliers de Canadiens partisans de la République s'engageront quand même dans le régiment Mackenzie-Papineau pour aller combattre les fascistes. 1941, les États-Unis et le Canada signent le pacte de la voie maritime du Saint-Laurent. Les travaux seront complétés en 1959. 1964, au Québec, une loi crée le ministère de l'Éducation, dont Paul Guérin-Lajoie sera le premier titulaire.
Paul Guérin, mon cher.
Paul Guérin. Il n'y a pas de U
non,
du tout.
Non.
Merci, merci.
Ça me fait plaisir.
1975, toujours un 19 mars, face aux communistes. Oui, les Sud-Vietnamiens évacuent la région des Hauts-Plateaux. Saigon tombera 6 semaines plus tard. 1996, à Manille, plus de 150 jeunes meurent dans l'incendie d'une discothèque. Et 2004, toujours un 19 mars, le Québec devient la troisième province à autoriser les mariages entre personnes de même sexe après l'Ontario et la Colombie-Britannique. Deux anniversaires en ce 19 mars, anniversaire de naissance du premier ministre du Québec, Lomer Gouin. Et également, anniversaire de naissance du médecin Henri Morgenthaler, pionnier du droit à l'avortement au Canada. Donc, M. Gouin, né un 19 mars 1861, et Dr. Morgenthaler, 1923.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse de ce 19 mars, exclusif Grand Prix du Canada, travaux sur le circuit Gilles Villeneuve, 28 millions de plus que prévu. Les soumissions reçues par la Ville feraient grimper les coûts à au moins 76 millions au lieu des 48 millions budgétés. Reportage, un tour d'ambulance, incursion dans un univers où chaque seconde compte. La chronique de Mylène Moisan, Léa Rose aura toujours un an. La chronique de Marie-Claude Lortie, juste pour rire, deux points, le gâchis. Pause famille, adolescence, j'ai 15 ans, je vois un psy, le sujet est moins tabou, mais, point de suspension, témoignage au pluriel. « C'est un article de Vincent Brousseau-Pouliot. Au rythme actuel, les travaux de rénovation du circuit Gilles Villeneuve effectués en vertu de l'entente avec la F1 ne coûteront pas 48 millions de dollars, mais au moins 76,2 millions, a appris la presse. Il s'agit d'un écart de 59 % par rapport à la somme annoncée publiquement par la Ville de Montréal en décembre 2015 pour la construction de nouveaux paddocks pour la F1. Dans l'entente initiale de 2014, la construction des paddocks devait coûter 32,6 millions, puis le coût a grimpé à 48 millions en décembre 2015. La Ville de Montréal assume 30 millions comme prévu et le gouvernement du Québec paie les 18 millions supplémentaires. Or, en se basant sur les résultats d'un appel d'offres en cours pour la réfection des paddocks, la facture totale des rénovations au circuit Gilles Villeneuve en 2017 et 2018 devrait plutôt être d'au moins 76,2 millions, selon des documents publics obtenus par la presse. Environ 16 millions de dollars iront à la rénovation de la zone « hospitalité », entre guillemets, une zone adjacente au paddock qui accueille les bureaux des équipes de F1. Tout comme les paddocks, cette zone doit être rénovée en vertu du contrat des gouvernements avec la F1. Ces trois contrats de 16 millions ont été accordés le 8 novembre dernier lors de la dernière séance du comité exécutif de l'administration Coderre. Mais le principal poste de dépense demeure la rénovation et la construction des garages et des paddocks. Il faut faire l'évaluation de ce qui a été budgété versus ce qui nous sera présenté dans les résultats des soumissions, dit Marc-André Viau, directeur des communications de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L'administration Plante prendra une décision finale en comité exécutif. La Société du parc Jean Drapeau, la société paramunicipale responsable du dossier, analyse actuellement la conformité des offres déposées et soumettra son analyse à la Ville de Montréal cette semaine. Plus de 140 millions de personnes pourraient migrer d'ici 2050 dans trois régions du monde en développement pour fuir les effets du changement climatique tels que la baisse de la production agricole, la pénurie de l'eau et la hausse du niveau de la mer, prévient la Banque mondiale. Dans un rapport publié lundi, celle-ci a chiffré à 86 millions les migrants climatiques potentiels en Afrique subsaharienne, à 40 millions en Asie du Sud et à 17 millions en Amérique latine si rien n'est fait d'ici cette échéance. Chaque jour, le changement climatique devient une menace économique, sociale et existentielle plus forte, a commandé Kristalina Georgieva, numéro 2 de la Banque mondiale. Nous le constatons dans les villes confrontées à des crises de l'eau sans précédent, dans les régions côtières expérimentant la vague de tempêtes destructives, dans les régions agricoles qui ne peuvent plus produire de cultures essentielles. Elle souligne que de manière irrésistible, le changement climatique est devenu un moteur de migration, contraignant des individus, des familles et même des communautés entières à chercher des endroits plus viables. On ne s'explique pas ce qui est arrivé. L'acrobate Yann Arnaud est mort à Tampa samedi soir après avoir chuté durant la présentation de son numéro de sangle aérienne lors d'une représentation du spectacle Volta du Cirque du Soleil. L'athlète d'expérience, l'aîné de la troupe sur ce spectacle, a fait une chute d'environ 5 mètres sur la scène devant les spectateurs. La force de l'impact a été amplifiée car il était en mouvement, de retour vers son partenaire de scène dans les airs. Le numéro fatal était un ballet aérien entre deux athlètes qui se retenaient et se dirigeaient par des sangles souples. L'artiste, fin trentaine, était un gymnaste d'origine française qui habitait à Miami. Il laisse dans le deuil sa conjointe et sa petite-fille de 2 ans qui étaient toutes deux à Tampa au moment du drame, puisqu'elles accompagnaient l'artiste en tournée. Santé Canada se penchera sur l'avenir de la vente de boissons sucrées fortement alcoolisées comme le Fuck Top et le Four Loko. La ministre de la Santé du Canada annoncera aujourd'hui qu'Ottawa s'engage à limiter la teneur en alcool ou le format de ses boissons mélangées. La ministre a demandé à Santé Canada d'organiser rapidement une rencontre avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour discuter de publicité, de commercialisation et d'étiquetage afin de réduire les risques associés à ces produits, dit Thierry Belair, attaché de presse de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor. Le service de police de la Ville de Montréal aura recours aux plongeurs pour fouiller la rivière des Prairies afin de retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouakou. Les tests effectués hier démontrent que la rivière est sûre. Pendant ce temps, l'enquête de la police continue et en début de soirée hier, les enquêteurs avaient reçu plus de 247 informations du public depuis l'annonce de la disparition de l'enfant. Par ailleurs, le boxeur Adonis Stevenson a fait don de 15 000 $ à la famille du garçon disparu depuis près d'une semaine. Les policiers ont fait du porte-à-porte et du ratissage de cours arrière dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville, aux alentours de l'endroit où le garçon a été vu pour la dernière fois. Ils ont également revérifié les berges à l'aide de véhicules tout-terrain hier. Vladimir Poutine a été réélu hier pour son quatrième mandat à la tête de la Russie, fort d'un score aux allures de raz-de-marée, toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition. Alimenté par le conflit syrien, la crise ukrainienne ou les accusations d'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump, la confrontation Est-Ouest s'est encore accentuée, alors que Londres accuse Moscou d'avoir empoisonné un ex-espion russe au Royaume-Uni, ce que Vladimir Poutine a qualifié hier de « grand n'importe quoi ». Syrie. Le drapeau turc flotte désormais sur la ville syrienne d'Afrin. Après environ deux mois d'offensive, la Turquie et ses alliés syriens ont rempli leur mission en chassant de cette région frontalière une milice kurde d'Ankara considérée comme terroriste. Les Kurdes de Syrie ont réagi en promettant de se battre pour la libération de toute la région d'Afrin, cible depuis le 20 janvier d'une offensive de la Turquie qui avait pour but d'en déloger les unités de protection du peuple. Cette milice, considérée par Ankara comme une menace à sa frontière, a été l'alliée de Washington dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. Les combats ont donné lieu à l'exode de milliers de civils. Les représentants d'une pièce de théâtre qui devait débuter hier dans le cadre du Downtown Contemporary Arts Festival, important événement artistique qui se tient au Caire depuis 2012, ont été annulés à cause de la censure annoncée le festival. Les autorités de la censure ont exigé la suppression de 5 scènes de la pièce, a souligné le festival. Le metteur en scène, Ahmad Attar, a estimé que la pièce qui évoque l'Égypte d'avant la révolution de 2011 ne pouvait être présentée sans ces scènes. La troupe a demandé à la censure de réexaminer sa décision aujourd'hui. L'annulation de la pièce survient à un moment où les libertés sont de plus en plus étouffées en Égypte, à moins de 10 jours du début de l'élection présidentielle. Cœur.
Plus récente pièce de Karim Ouellet, ça s'intitule Les Roses, un extrait de son album 30.
En une du devoir de ce lundi de mars 19, pour être plus précise, présidentiel russe Vladimir Poutine pour 6 ans de plus. On a une photo de lui tout sourire. Nous allons travailler tout aussi dur d'une manière tout autant responsable et efficace, a promis dimanche Vladimir Poutine. Émissions de GES, gaz à effet de serre, des projets échappent aux tests climat. Théâtre, une jeunesse en quête d'héroïsme. À Paris, la nouvelle création de l'auteur libano-québécois Wajdi Mouawad raconte un deuil qui bouscule tout. C'est Philippe Couture qui écrit l'article. Il est à Paris. Jeux olympiques, paralympiques de Pyeongchang. Une récolte de médailles historique pour le Canada. Une application pour mettre en contact prostituées et clients. Fonds fédéraux, un retard à rattraper dans les projets de transport collectif au Québec. Intégration, les élèves immigrants sont plus motivés, mais réussissent moins bien. Les élèves immigrants sont plus motivés, mais réussissent moins bien. Dans les pays de l'OCDE, le désavantage socio-économique et la barrière de la langue constituent des obstacles majeurs à leur intégration. Les élèves immigrants de première ou de seconde génération sont généralement plus motivés à l'école que ceux qui sont nés dans le pays où ils étudient. Par contre, les élèves immigrants, particulièrement les immigrants de première génération, ont davantage de difficultés à l'école et sont désavantagés dans d'autres domaines influençant leur bien-être. Ils ont en général un sentiment moins développé d'appartenance aux institutions scolaires, éprouvent moins de satisfaction face à leur vie et sont plus anxieux au sujet de l'école. C'est ce que montre un rapport rendu public lundi par le Programme international pour le suivi des acquis aux élèves, PISA, de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, portant sur les immigrants étudiants dans 35 pays. 51%, c'est la proportion des élèves immigrants de première génération qui n'atteignent pas les critères minimaux en lecture, en mathématiques et en sciences, selon le rapport. Cette proportion est plutôt de 28% pour les élèves nés dans le pays où ils étudient. Des milliers de personnes ont bravé le froid dimanche après-midi pour assister au 195e défilé de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais à Montréal. Le vert et le trèfle irlandais, le Shamrock, étaient évidemment à l'honneur pour ce rendez-vous annuel festif. En raison des travaux menés sur la rue Sainte-Catherine, les 20 chars allégoriques et les 25 fanfares ont défilé sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest cette année. Trudeau visé par des trolls russes. Un rapport du Congrès américain indique que l'agence qui s'est mêlée de la présidentielle de 2016 s'est aussi prise à des cibles canadiennes. Pardonnez-moi. La même pépinière à trolls russes qui s'était mêlée de l'élection présidentielle américaine s'en est aussi prise à des cibles canadiennes comme des infrastructures pétrolières et le premier ministre fédéral Justin Trudeau. Des preuves sont incorporées dans les données rendues publiques au cours d'enquêtes menées aux États-Unis. Le Congrès examine actuellement des renseignements provenant de Russie obtenus dans la foulée de l'élection de 2016. Le contingent que veut envoyer le Canada au Mali comptera un grand nombre de femmes, le gouvernement Trudeau voulant que le Canada montre l'exemple dans ce domaine. Selon une source gouvernementale, le contingent des forces armées devra compter de 200 à 250 militaires. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, doivent dévoiler aujourd'hui, lundi, les grandes lignes de l'intervention canadienne au Mali. 6 hélicoptères pourraient être déployés dans le cadre de cette opération de maintien de la paix dirigée par l'Organisation des Nations Unies. Sans surprise, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a été reporté au pouvoir pour un quatrième mandat dimanche avec plus de 76 % des voix selon les résultats partiels. Un scrutin qui a davantage pris les allures d'un vote de confiance envers l'homme, ses politiques et sa posture défiante face à l'Occident. « Nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace », a déclaré le président devant des centaines de partisans. Voyant dans sa victoire la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans des conditions très difficiles. Si 7 autres candidats se sont présentés à la présidentielle, ils n'ont réussi à récolter que quelques miettes. Pavel Groudinin du Parti communiste est arrivé loin derrière en deuxième place avec un peu plus de 12 % des voix. Il faut dire qu'après plus de 18 ans à la tête de la Russie, 14 comme président et 4 comme premier ministre, Poutine a su consolider son pouvoir et le contrôle de la politique en n'hésitant pas à jeter en prison ses plus fervents opposants. Parlons sport, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Jeux paralympiques, un record de médailles pour les athlètes canadiens. La délégation canadienne formée de 55 athlètes s'était fixé un objectif prudent de 17 médailles aux Jeux de Pyeongchang, soit une de plus qu'à Sochi il y a 4 ans. Mais les Canadiens ont surpassé les attentes plusieurs jours avant la conclusion des Jeux et leurs 28 médailles ont pulvérisé le record précédent de 19 établi aux Jeux de Vancouver en 2010. Les athlètes ont attribué la performance du Canada à l'esprit d'équipe et au noyau de jeunes athlètes très talentueux. Quelques semaines après avoir eu le cœur brisé aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Alex Harvey s'est repris en terminant sa carrière avec une médaille d'argent en poursuite de 15 km à la Coupe du monde de ski de fond de Fallon, dimanche. Harvey de Saint-Ferréol-les-Neiges a complété la distance en 35 minutes 50,4 secondes. Il n'a été devancé que par le Russe Alexander Bolchnov, vainqueur en 35 minutes 03,3. Boss en parallèle, Michael Kingsbury a couronné une saison de rêve en remportant la médaille d'or en boss en parallèle à la Coupe du monde de ski acrobatique de Megève en France dimanche. Kingsbury de Deux-Montagnes a vaincu en super finale le favori local, Benjamin Cavet, pour signer sa première victoire à cet endroit. L'Américain Bradley Wilson s'est octroyé la médaille de bronze après avoir pris la mesure du Suédois Ludvig Jalström en petite finale. Et le Canadien Charles Hamelin a remporté le titre cumulatif pour la première fois de sa carrière dimanche au championnat du monde de patinage de vitesse courte piste. Il est devenu le premier Canadien depuis Marc Gagnon en 1998 à accomplir cet exploit. Hamelin, qui est âgé de 33 ans et qui a annoncé plus tôt cette semaine qu'il reportait sa retraite d'au moins une saison, a d'abord ajouté le titre aux 1000 mètres à celui acquis la veille sur 1500 mètres à son palmarès. Il avait aussi terminé au 5e rang sur 500 mètres samedi grâce à une victoire en finale B. La locomotive de Sainte-Julie a ensuite fait le nécessaire en super finale sur 3000 mètres. Hamelin a terminé la compétition avec 81 points. En franchissant la ligne d'arrivée à la fin du 3000 mètres, Hamelin a levé les bras au ciel et a fait un signe de cœur à la foule qui l'acclamait. Il a ensuite sauté dans les bras de son frère François et de ses coéquipiers. Il a aussi fait l'accolade à son entraîneur Derek Campbell et à Marianne Saint-Gelais qui a pris sa retraite dimanche après une médaille de bronze aux 3000 mètres. « Merci d'écouter le quotidien des quotidiens sur Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Dans un petit moment après la pause et la chanson, il y aura pour vous la suite de l'émission avec la revue de presse du Journal de Montréal.
C'est une nouveauté, il s'agit de Bardot et la pièce « Enfin ».
Journal de Montréal, enquête, odeur de scandale dans les ordures à Montréal. La ville aurait payé pour ses voisins, contrat de 35 millions résiliés, caractère frauduleux, dit le BIG. La ville de Montréal aurait été flouée par une compagnie de ramassage d'ordures qui l'a fait payer pour enfouir les déchets d'autres villes, dénonce l'inspecteur général Denis Galland dans un rapport choc qu'il vient de remettre à la mairesse Valérie Plante. Notre bureau d'enquête a appris que la firme Services environnementaux Richelieu Inc., donc SER, S-E-R, est dans la mire du gardien de l'intégrité à l'hôtel de ville. SER est payée depuis 2008 en fonction du poids des déchets qu'elle ramasse dans les rues des arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest. Mais elle aurait réussi à passer sur le compte de la ville, et donc des contribuables montréalais, des ordures provenant aussi de Brossard, de Boucherville, de Carignan, de Saint-Basile-le-Grand, de McMasterville et de Belleuil. Dans un document qui conclut une enquête d'un an, Maître Galland ne mâche pas ses mots et affirme que les pratiques de cette firme revêtent un caractère frauduleux. Les malversations seraient si graves que le bureau de l'inspecteur général, Big, a décidé de résilier deux contrats de SER, donc des services environnementaux Richelieu Inc., totalisant plus de 35 millions, a alerté l'unité permanente anticorruption qui pourrait ouvrir une enquête criminelle, songe à contacter l'autorité des marchés financiers qui pourrait devoir décider si l'entreprise aura le droit de conclure d'autres marchés publics. Pour découvrir le poteau rose, le Big a notamment pris en filature des camions de SER, S-E-R, utilisé des preuves GPS et mis la main sur des bordereaux de vérification incomplets ou trafiqués. C'est malheureux parce que c'est de la fraude, tout simplement. Si c'est avéré, c'est une compagnie qui a fait une double facturation. Donc, c'est du vol auprès de l'arrondissement. C'est du vol, en fait, auprès des citoyens qui paient des taxes, vous et moi, estime Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Le Big n'est également pas tendre envers la Ville de Montréal, qui l'accuse d'avoir été négligente dans sa surveillance de l'entrepreneur. Elle doit socio-financer les obsèques de sa sœur. La femme déplore que la prestation du gouvernement ne soit pas suffisante. « Ce sont les derniers moments d'intimité avec ma sœur que j'ai l'impression de devoir vendre au public, juste pour qu'on puisse lui offrir une fin décente », soupire Josée Thibodeau, 45 ans. Sa sœur Joanne, 63 ans, vit ses derniers jours dans un centre de soins palliatifs de la Rive-Sud. Avec son salaire de 11,75 $ de l'heure à titre de commis dans un CHSLD, où elle a travaillé pendant 20 ans, la dame originaire de Montréal n'a jamais vraiment eu la chance d'économiser ni de se procurer une assurance vie. Sa sœur, qui a arrêté de travailler il y a plus d'un an pour prendre soin de son père maintenant mort, ne peut lui venir en aide financièrement. Elle s'est donc résignée à lancer une campagne de sociofinancement sur Internet. « On n'a jamais vraiment été des gens qui demandaient de l'aide. » C'est un peu plié sur notre orgueil que de faire ça. Pour plus de détails sur la campagne, www.gofundme.com/pour-que-Joanne-parte-en-paix. Le cas de Josée Thibodeau est le reflet d'une triste réalité pour la société québécoise, estime la Corporation des thanatologues du Québec, qui rappelle qu'entre 30 et 40 des familles disposent uniquement des 2 500 $ offerts par Québec pour payer les frais funéraires de leurs proches. C'est la triste réalité de nos jours, déplore la directrice de l'association professionnelle Annie Saint-Pierre. Malheureusement, le gouvernement prend soin de nous quand on vient au monde, mais beaucoup moins quand on arrive à la fin d'une vie. Et les gens ne sont pas assez conscientisés à cette problématique, ajoute le président de la corporation Denis Desrochers. Selon lui, les salons funéraires font leur possible pour offrir les meilleurs prix aux familles endeuillées qui manquent de fonds, mais ils sont toutefois limités par certains frais fixes. La France insultée par un fromage d'ici. Ce n'est pas du camembert, c'est un fromage industriel sur lequel on a mis le mot camembert, a lancé le critique gastronomique français Perico Légas sur la chaîne LCI. Le camembert L'Extra, produit à Saint-Hyacinthe par la coopérative Agropur, s'est imposé face à 17 autres produits concurrents lors du World Championship Cheese Contest qui se déroulait la semaine dernière au Wisconsin aux États-Unis. Cette compétition mondiale est présentée comme la plus importante du genre. Meilleur au monde, un camembert québécois dérange. Le fromage québécois a ainsi surpassé Lisigny, un camembert réputé de Normandie considéré comme la référence en la matière. Ce qui semble le plus contrarier les habitants de l'Hexagone, c'est que l'extra a été élaboré avec du lait pasteurisé et non cru, comme le veut la tradition. deux ans, les surplus bondissent de 250. Les commissions scolaires voient leurs coffres se garnir après des années de déficit. Le président de la Fédération des commissions scolaires relativise toutefois les montants. C'est sûr que ça semble être un gros montant, reconnaît Alain Fortier, mais en même temps, le budget de l'école publique, c'est 11 milliards de dollars. Je dirais que c'est de la saine gestion et non pas énormément de surplus, ajoute-t-il. D'ailleurs, la situation varie d'un territoire à l'autre. Invité à commenter, le cabinet du ministre de l'Éducation a souligné que le surplus d'exercice des commissions scolaires s'explique principalement par une augmentation des revenus provenant des biens et services, dont la location de salles et autres services tarifés, par les commissions scolaires. Ceux-ci ont rapporté quelque 55 millions en 2016-2017. La Fédération des commissions scolaires demande au gouvernement du Québec de permettre à ses membres d'utiliser les surplus en service aux élèves. Pour le moment, les commissions scolaires peuvent seulement utiliser 15 % de leurs excédents budgétaires. Un motoneigiste a succombé à ses blessures hier après une embardée survenue sur un sentier de motoneige à Amos. L'homme aurait perdu la maîtrise de son engin pour aller percuter un arbre. Il a été éjecté de sa motoneige sous la force de l'impact. Il est décédé peu de temps après son arrivée au centre hospitalier. L'homme, âgé de 31 ans, se promenait seul au moment de l'accident sur un sentier situé à proximité du chemin Lemerise. Et investi sans opposition comme candidat de Québec solidaire dans la circonscription montréalaise de Gouin hier, Gabriel Nadeau-Dubois ne croit pas que sa réélection comme député provincial soit dans la poche. Pour Québec solidaire, les châteaux forts n'existent pas. « Je ne tiens donc rien pour acquis », a mentionné celui qui agira comme organisateur en chef de la campagne électorale de sa formation pour les élections d'octobre prochain. GND, donc Gabriel Nadeau-Dubois, a été élu député en mai dernier.
Toutes les balises sont moi.
s'aimera, c'est le titre du plus récent extrait de Fanny Bloom qu'on vient d'entendre. Fanny Bloom, que vous aurez le plaisir d'entendre dans une prochaine émission de Studio M, où elle sera l'invitée de Mathieu Caron. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site web pour avoir les détails de diffusion de cette émission, sinon Studio M le samedi à 9h.
La chronique de Mylène Moisan, très émouvante, qui fait aussi la une de la presse d'aujourd'hui, intitulée « Léa Rose aura toujours un an ». Une petite bosse violacée sur le bras droit de Léa Rose, un peu comme un bleu, mais qui ne part pas. Marie-Pierre Rivard va voir le médecin. « Pas grave, madame, elle a dû se cogner. » C'était grave, c'était la pointe de l'iceberg et l'iceberg, un cancer. Léa Rose a une leucémie myéloblastique, une forme rare entre 5 % à 10 % des leucémies diagnostiquées chez les enfants. Le verdict tombe le 17 juillet 2013. La maladie est agressive, la partie est loin d'être gagnée. Léa Rose a 9 mois. La petite ne retourne pas à la maison, elle reste au CHUL où elle devra recevoir un traitement de chimiothérapie intensive pendant 6 mois. Les médecins sont confiants. Marie-Pierre est à son chevet presque 24 heures sur 24. Elle dort sur une petite banquette à côté du lit de sa fille. Léa Rose fait ses premiers pas le 3 octobre. 10 jours plus tard, on fait une fête pour son premier anniversaire, avec un gâteau et tout. Le 20 octobre, une semaine après sa fête, Léa est plus moche que d'habitude. Je suis inquiète, je connais ma fille, je sais que quelque chose ne va pas, ça c'est certain. Elle tourne difficilement sa tête, on dirait comme si elle avait un torticolis. Je n'aime pas ça, mais ces médecins ne seront là que le lendemain matin. Le verdict tombe le lundi. Léa Rose a une masse au cerveau de la grosseur d'une orange. Il n'y a plus rien à faire. On ne lui donne que quelques heures à vivre. Nous avons passé la nuit, les trois ensemble. Je ne pouvais pas me séparer de sa petite main dans la mienne. Et de me mettre l'autre main sur son cœur, tellement je craignais le moment où ce petit cœur que j'avais fabriqué cesserait de battre pour toujours. La petite a passé la nuit. L'équipe du CHUL a proposé à Marie-Pierre et à son chum de ramener leur petite Léa à la maison. Léa a fait une belle longue semaine à la maison avec nous. Une semaine où il nous a été permis de faire face, d'accepter, entre guillemets, un tant soit peu de la laisser partir. Une semaine pour l'aimer, la cajoler, la bercer. Léa Rose est partie le matin du 28 octobre à 1 an et 14 jours à peine. Ce matin du 28 octobre, il a neigé. Je m'en rappellerai probablement jusqu'à mon dernier souffle. Elle est partie en douceur, représentative d'elle-même, sans douleur, le sourire aux lèvres. Elle l'a habillée de sa plus belle robe. Et une partie de Marie-Pierre est morte aussi ce matin-là. Je ne le savais pas encore, mais c'est de moi qu'il allait falloir que je m'occupe. Me reconstruire, apprendre à vivre avec sa perte. C'est surtout pour ça que Marie-Pierre m'a raconté son histoire. C'est aussi pour ça que je vous la raconte, pour l'après. Marie-Pierre est allée chercher de l'aide, une thérapeute du deuil qu'elle consultait une à deux fois par semaine qui lui demandait d'écrire comment elle se sentait. Pour survivre aux fêtes, Marie-Pierre et son chum sont allés dans un tout-inclus au Mexique. Mais en voyant tous ses enfants s'amuser, elle a craqué. Cette semaine-là a été dévastatrice. J'étais assise sur la plage, je voyais des enfants partout, je pleurais. J'ai pensé à de pas belles choses. Au retour, elle est allée en thérapie un mois, fermée. Elle s'est raccommodée tranquillement. J'ai réalisé que mon estime de soi avait baissé. Je n'avais plus ma fille à m'occuper. Perdre un enfant, c'est perdre une raison de vivre. Il faut en trouver d'autres. Elle a eu Sophia en avril 2015. On ne l'a pas eue pour remplacer Léa Rose. On a toujours voulu d'autres enfants. Mais quand Sophia a eu 9 mois, ça a été difficile. C'est l'âge qu'avait Léa quand elle est tombée malade. La première année, je comparais Sophia à Léa. Et là, c'est l'inverse. Je me demande, est-ce que Léa Rose aurait été comme ça? Son couple a survécu. On a vécu ça différemment, mais on s'est complété. J'étais plus proche de mes émotions et lui était plus cartésien. Mais il est tout de même allé consulter. On se dit que si on est passé au travers de ça ensemble, on peut faire un sacré bout de chemin. Ils se sont mariés il y a 2 ans. On s'était dit, quand Léa Rose était à l'hôpital, si elle s'en sort, on se marie. Quand Marie-Pierre est retournée au boulot, à la police de Québec, elle avait changé. Je ne suis plus la même policière qu'avant. Ça a clairement changé ma pratique, particulièrement pour ce qui est de l'empathie avec les cas de santé mentale, qui sont à peu près 75 % des cas. Elle comprend la détresse, le trou noir. À 30 ans, elle profite plus que jamais des petits moments. Quand ma fille me demande de jouer avec elle et que je suis occupée, j'essaie de tout laisser pour passer du temps avec elle. C'est quoi 15 minutes dans une journée? Notre monde va si vite, le moment présent est souvent oublié. Et voilà qu'elle attend un troisième enfant, au début de l'été. Elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et comme toutes les femmes enceintes, elle se fait demander si c'est son premier. Je dis que c'est ma troisième grossesse et que ma première fille aurait 5 ans. Elle fait partie de notre vie. Je ne peux pas ne pas en parler, même si parfois ça crée un malaise. Elle en parle aussi à Sophia, qui aura bientôt 3 ans. On lui dit qu'elle a été malade, qu'elle est au ciel avec grand-papa Claude. On va au Columbarium voir Léa Rose à sa fête pour souligner sa naissance plutôt que son décès. Elle est dans une petite urne rose avec un toutou. Dans la tribune, Tommy Brochu, la Maison des jeunes portera le nom de Serge Forêt, l'ancien conseiller municipal dans Rock Forest. Serge Forêt a eu droit samedi à un brillant hommage à la Maison des jeunes qu'il a fait construire il y a plusieurs années. Cette Maison des jeunes portera désormais son nom. Monsieur Forêt semble touché par le geste. C'était vraiment inattendu. C'était une fête surprise qu'ils m'ont faite. J'ai été honorée par le conseil de la Maison des jeunes et par plusieurs de mes amis. Je l'ai su 10 minutes avant d'arriver. C'est un beau cadeau, un hommage qui m'a fait extrêmement plaisir. Je n'ai jamais travaillé pour cela, poursuit-il. J'ai travaillé pour les jeunes et pour la communauté. Je ne pensais pas recevoir un hommage aussi grand de la part de la communauté de Rock Forest, Saint-Élie et Deauville, a admis celui qui a pris sa retraite de la vie politique en 2013. Monsieur Forest tenait quand même à partager le crédit. Je n'ai pas fait ça tout seul. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été impliquées dans ce projet. « Naturellement, la communauté m'a toujours soutenu », indique-t-il. Même s'il combat actuellement un cancer, Serge Forest s'informe et suit la politique municipale quotidiennement. On n'a pas sorti la politique du gars encore. Par contre, je ne suis plus impliqué. Je m'occupe de ma santé et de ma famille. Je suis atteint d'un cancer depuis 2014. Je suis mes traitements. Il y a de bonnes journées et des moins bonnes. Ces temps-ci, ça va bien, tout est sous contrôle, rassure l'ancien politicien. Celle qui a pris le siège de M. Forest en 2013, Annie Godbout, tenait à être présente à l'hommage de son prédécesseur. C'était une soirée près de sa personnalité. C'était simple et touchant. M. Forest était un homme engagé, affirme-t-elle. Serge Forest s'est battu pour que Rock Forest ait sa maison des jeunes, se rappelle Mme Godbout. Ils avaient fermé la maison des jeunes dans le parc Mi-Vallon à cause du grabuge. Serge a été interpellé et a dit qu'il en fallait une. Ils ont donc fait une maison des jeunes à côté du poste de police. M. Forest est allé chercher le financement. Il est allé chercher une mise de fonds de 60 000 $, alors que l'objectif était de 50 000 $. C'est un homme qui était très près des jeunes, lui qui a travaillé à Val-du-Lac, a commenté l'actuelle conseillère municipale. Matelas René en mode solution, c'est dans le Nouvelliste, Gabriel Delisle, au lendemain de l'incendie qui a totalement ravagé une de leurs usines à Nicolette. La direction de Matelas René élaborait des solutions dimanche. La production des pièces de métal réalisées à cet endroit sera temporairement assurée par un fournisseur de Matelas René. Nous avons trouvé un fournisseur qui peut nous acheminer les pièces que nous avons besoin, dont nous avons besoin. Cela permettra alors à notre production de matelas de se poursuivre normalement, affirmait dimanche par téléphone le propriétaire de Matelas René, Jacques René. Bien qu'il a évoqué la reconstruction de l'usine incendiée, le chef d'entreprise ne pouvait toutefois en dire davantage ce week-end. Ces installations de Matelas René, une entreprise qui exploite aussi les boutiques au lit, étaient utilisées comme entrepôt et pour la fabrication de ressorts. Deux employés travaillaient à cet endroit. Le bâtiment du parc industriel de Nicolet, ravagé, était aussi utilisé par les entreprises Jean-Marc Landry. L'entreprise louait de l'espace à Matelas René. Les pertes de cette deuxième entreprise, qui employait aussi deux personnes, s'élèveraient à près de 600 000 $. Des soumissionnaires ont remporté ces derniers mois des appels d'offres gouvernementaux pour des Computers and Peripherals for the Department d'affaires autochtones, des Generators, Entretiens, ainsi que des XXXXX French Here, XXXXX, et j'en passe. Alors, c'est dans le droit d'aujourd'hui, mais on en parle dans tous les journaux, sous la plume de Mélanie Marquis pour la presse canadienne. En revanche, le gouvernement cherchait toujours à la mi-mars des fournisseurs pour les besoins en alimentation, alimentation A-L-I-E-M-A-N-T-A-T-I-O-N, dans des établissements correctionnels de l'Ontario pour des d'alarmes personnels portatifs, d'alarmes donc D-A-L-A-M-A-R-M-E, et pour l'évacuation d'un hélicoptère H-E accent aigu L-I-C-O-P-T-E accent grave, R, sous l'eau. Formation. Alors, ces appels d'offres qui figurent sur la version française d'un site du gouvernement du Canada ne représentent qu'une fraction des cas de traduction bancale recensés par Chantal Carré, ex-employée politique du NPD, aujourd'hui étudiante en droit à l'Université d'Ottawa. Si certains collectionnent des timbres, des pièces de monnaie ou encore des œuvres d'art, Mme Carré, elle, collectionne les perles linguistiques. Ici Hélène Denis, merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens, à venir la dernière demi-heure avec les actualités culturelles et les sujets libres.
J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, j'y serai. Un fil de ma terre sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune, j'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il roule, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens au hublot de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut. Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité, j'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la Voie lactée.
Zaz et la pièce La Lune.
Actualité culturelle, c'est ça qui est ça. André Sauvé présente son troisième spectacle solo. On en parle dans le Journal de Montréal et aussi dans la presse. Véronique Lauzon dans la presse. La boule dans le ventre qui force une personne à changer de métier, à larguer son amoureux, à changer de vie. Cette boule, André Sauvé la nomme ça. Et c'est de ça qu'il parlera dans son troisième spectacle solo intitulé Ça. CCDA. Ça est le titre du prochain spectacle d'André Sauvé qu'il présentera en rodage dès le 31 juillet. Dans la vie, nous entendons souvent qu'il faut écouter ça, dit André Sauvé en pointant son ventre. Ça a l'air donc beau dit comme ça. Mais quand tu le fais pour de vrai, c'est freakant en maudit. Dans un long numéro, plus de 30 minutes, l'humoriste parlera du parcours qu'il a mené au métier d'humoriste. Il raconte notamment qu'il a été peintre en bâtiment pendant 2 ans. J'étais en plein milieu d'un contrat de peinture quand ça m'a dit en dedans « Ce n'est pas ça ta vie ». Et j'ai suivi ça. Je savais que si je n'arrêtais pas là, j'allais refaire des contrats encore et encore. Et tu vois, c'est un bon exemple de quelque chose dont on rit aujourd'hui, mais c'était extrêmement dramatique et émotif quand je l'ai vécu. « Hey, j'ai écouté ça », il pointe son ventre. Mais ensuite, ce n'est pas parce que tu sais que ce n'est pas ça ta vie que tu sais c'est quoi. Tu sais juste que ce n'est pas ça, dit-il. L'effet OSM. L'été dernier, André Sauvé a présenté un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Vu le succès de la démarche, il offre de nouvelles représentations le 24 mars à Québec et les 26, 27 et 28 mars à Montréal. Amateur de musique classique, l'humoriste est très fier de ce projet. J'avais peur de me péter la gueule, je ne vous le cache pas. Mais je me suis souvenue de Maria Callas, dans une entrevue qui disait qu'elle choisissait souvent des œuvres qui lui semblaient impossibles à faire. Et quand ça semble impossible, on va chercher des ressources à l'intérieur de soi qu'on ne soupçonnait pas. Finalement, ça m'a fait un peu ça. Ça m'a changé comme événement, explique-t-il. Il reprend d'ailleurs quelques idées de ce spectacle musical dans « Ça ». Il ajoute que son expérience avec l'OSM lui a permis de parler de sujets plus intimes avec le public, ce qu'il continuera de faire dans son troisième spectacle. C'est dans sa maison dans les Alpes françaises qu'il a écrit pendant des mois son nouveau spectacle. « Je suis comme un ouvrier. 5 jours par semaine, dès 8h30, je suis devant le clavier. Le reste du temps, je vais travailler dehors dans le jardin. Je vais suer », dit l'humoriste qui a reçu 3 Oliviers pour son dernier spectacle solo, « Être », dont celui du meilleur spectacle de l'année. Quand je prends mon café le matin et que je lève les yeux de ma presse plus, c'est un pic enneigé que j'ai devant moi. Et c'est comme ça à 360 degrés. Nous sommes dans le creux d'une vallée et ce sont de grosses montagnes, explique André Sauvé. Il poursuit, « Je n'aurais jamais pensé vivre cette vie-là un jour. Mais vous voyez, ça fait partie du ça, d'écouter ça. Si nous lâchons prise et que nous suivons notre feeling, ça peut nous amener là. Tout ça, par contre, en ayant payé le prix de l'insécurité parce que chaque fois que nous tournons une page, on ne sait pas c'est quoi la suivante. Et au lieu de s'accrocher à ce que nous connaissons, on fait confiance à la vie. Ça prouve que ma théorie marche. Il faut écouter ça, dit-il en riant. Nous avons des problèmes de sangliers qui viennent dans notre cour. Ils viennent gruger chez nous. Vous voyez, ce sont d'autres enjeux que je vis dans mon quotidien. J'aime ça parce que ça m'amène complètement ailleurs. Et là-bas, les locaux, ce sont des fermiers. Alors, on ne discute pas de la même chose et c'est tant mieux. Ça me fait du bien. C'est ça l'équilibre, explique André Sauvé avec le grand sourire qu'on lui connaît. Il confie qu'il apprend beaucoup de la nature et qu'elle lui inspire des numéros. Dans le jardinage, je me suis rendu compte que nous ne travaillons jamais sur la plante. Tu travailles tout autour de la plante. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu l'arroses, tu la protèges du soleil, mais tu ne travailles pas dessus. Elle, elle fait sa job toute seule. Et ça, j'apprends de ça. Dans la vie, il suffit que je me mette dans un environnement qui favorise l'éclosion. Nous n'avons pas à travailler sur la chose. On travaille autour, dit l'humoriste, dont la première montréalaise de ça aura lieu le 9 octobre au Monument national. Dans le Journal de Montréal, c'est bluffant. La popularité de Christophe Mahé a explosé après un passage à la télé. Le 10 mars dernier, Christophe Mahé a été dépêché à l'émission de France Baudouin à Radio-Canada pour y interpréter la chanson préférée de vie adulte de l'invité, Francis Rédé. Une invitation qui a pris le chanteur français par surprise. Je n'ai pas imaginé une seule seconde que cette chanson allait toucher les gens à 10 heures d'avion de moi. En fait, on ne peut jamais savoir quelle vie nos chansons vont avoir une fois qu'elles sont lancées. Mais à ce point-là, c'est bluffant, avance le chanteur. Évidemment, sa popularité au Québec a beau être grandissante, elle n'a encore rien de comparable à celle dont il jouit en Europe depuis une décennie, où il a vendu quelque 5,5 millions d'albums. Mais quelques jours ont suffi à ce que la vidéo de son passage à l'émission En direct de l'Univers, partagée sur la page Facebook de l'émission, dépasse le million de vues. L'entrevue de Christophe Mahé avec le journal la semaine dernière a d'ailleurs dû être retardée momentanément par un fan qui, l'ayant reconnu dans le lobby de son hôtel, a insisté pour prendre une photo avec lui. J'étais loin de m'attendre à ça. J'ai l'impression de revivre les premières années de ma carrière en France, souffle-t-il. Déjà de retour dans sa France natale, Christophe Mahé ne tardera pas à revenir dans la métropole. Après une visite éclair la semaine dernière, le chanteur est attendu à l'Olympia de Montréal en mai pour deux concerts, ses premiers en sol québécois. D'ici là, il ira à la rencontre du public américain dès le mois prochain pour une courte tournée qui l'amènera, entre autres, à Los Angeles, San Francisco et New York avant son arrêt à Montréal. « J'ai toujours rêvé de faire voyager ma musique et d'aller essayer de séduire de nouvelles personnes à l'étranger. C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, qui entretient cette flamme que j'ai en moi », confie Christophe Mahé, qui sera en spectacle à l'Olympia de Montréal les 5 et 8 mai. Black Panther s'agrippe fermement au sommet du box-office nord-américain pour la cinquième semaine de suite, résistant aux assauts de Lara Croft, entrée avec Tomb Raider, directement à la deuxième place ce week-end selon la société spécialisée Exhibitor Relations hier. Le film de Ryan Coogler devient ainsi le premier depuis Avatar en 2009 à tenir le sommet du podium pendant cinq semaines. Il a récolté 27 millions de dollars américains ce week-end, ses recettes totales depuis la sortie en Amérique du Nord atteignant désormais 605,4 millions. Black Panther a passé la barre du milliard de dollars de recettes mondiales dès la semaine dernière.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Et c'est Christophe Maé qui nous le dit. Il est où le bonheur? Il est là.
Sujet libre, la presse auto de Studebaker à Lexus. Denis Arcand est l'un de nos plus grands cinéastes. Il a notamment remporté le César du meilleur film et l'Oscar du meilleur film étranger pour Les Invasions barbares en 2004. Des prix Génie pour Le déclin de l'Empire américain, Jésus de Montréal. Les deux films ont également été finalistes aux Oscars et Les Invasions barbares. Dire que sa pire voiture a failli interrompre l'un de ses tournages importants, point de suspension, c'est un article de Mathias Brunet. La voiture qui a marqué mon enfance. Les Studebaker de mon grand-père. Il y en a qui disent Stud, mais Chez nous, par chez nous, on disait Studebaker. Alors, elles avaient fière allure. Mon grand-père, qui était pilote du Saint-Laurent comme mon père, nous emmenait, mon frère Bernard et moi, manger des cornets de crème glacée au restaurant chez Paul aux Grondines à la fin des années 40, début des années 50. Ma première voiture, une Volkswagen Beetle 1962 de couleur crème. Mon père m'avait prêté l'argent après la signature de mon premier contrat à l'ONF. Je l'ai gardé 2 ans. Mon père me l'a ensuite racheté pour la laisser au port de Trois-Rivières où elle lui était utile. C'est après que j'ai acheté une MGB noire, la première à Montréal, qui a été la seule histoire d'amour que j'ai connue avec une voiture. Un amour malheureux d'ailleurs. Elle me coûtait une fortune, ne démarrait pas l'hiver, mais elle était orgasmique dans les virages. Je l'ai gardée 3 ou 4 ans et je l'ai revendue, le cœur brisé. Ma pire voiture, une Dodge achetée très usagée dont le moteur a explosé à l'aube sur l'autoroute 40 lors du premier jour de tournage de Réjeanne Padovani. Un assistant réalisateur est venu me chercher. Il a convaincu Renault de nous prêter un modèle sport pour le reste du tournage sous le prétexte qu'on verrait l'auto à l'écran. En fait, je pense qu'on la voit 3 secondes. La voiture de mes rêves, la voiture que j'ai en ce moment, une Lexus hybride. Elle est fiable, tranquille et discrète. J'essaie de l'imiter. La section débat, Requiem pour le cheval à Montréal. C'est un texte de Richard Bergeron, PhD urbaniste. Valérie Plante entend bannir les calèches de Montréal, renonçant par le fait même à la construction d'une écurie municipale. Si elle donne suite à cette décision, le cheval disparaîtra de Montréal. Je soutiens qu'il faut plutôt revaloriser le rôle des chevaux dans notre ville. Craig Sauvé, responsable du dossier, soutient que Projet Montréal a toujours plaidé pour le retrait des calèches à Montréal dans le Devoir 21 décembre 2017. Cette affirmation est contraire aux faits. Le débat a pris place en 2007 par le biais de l'approche commerciale de l'administration Tremblay, voulant qu'en réduisant le nombre de véhicules en circulation, les revenus de chaque exploitant devraient progresser et leur permettre d'offrir un meilleur service. J'ai rétorqué au conseil municipal, si l'on suit cette logique jusqu'au bout, il ne restera plus qu'une calèche en 2020 et son coût de location sera de 1 000 $ l'heure. Mais comme une centaine d'Américains fortunés consentiront à payer ce tarif, l'administration s'exclamera « L'industrie de la calèche est enfin rentable à Montréal ». Ce ne fut bien sûr pas là mon seul argument. J'ai soutenu que le cheval avait été au cœur de la ville des Montréalais et du développement de leur ville durant 300 de ces 375 années d'existence, ce qui fondait le concept de patrimoine vivant. J'ai évoqué le charme que le cheval conférait au vieux Montréal. Je me suis désolée qu'il ne subsiste plus de présence du cheval à Montréal que par le biais d'une activité à la forme presque honteuse, néanmoins à fort prix, et de ce fait pratiquement réservé aux touristes. J'ai parlé des yeux des enfants qui s'illuminent dès qu'ils aperçoivent un cheval. J'ai soutenu que tout enfant grandissant à Montréal devrait au moins une fois avoir l'occasion de faire un tour de calèche. J'ai relaté le plaisir infini de ma fille et des amis conviés à son 8e anniversaire quand, regardant par la fenêtre, elles ont vu deux calèches qui les attendaient devant la maison. Enfin, j'ai proposé d'enrichir l'approche commerciale par des volets culturels et éducatifs, ne se limitant pas à la seule question des calèches, mais cherchant plus largement à valoriser le patrimoine équin de Montréal. Cet argumentaire conduisait logiquement à la proposition de construire une écurie municipale jouxtée d'un centre d'interprétation de la contribution du cheval à l'histoire de Montréal, en plus de nous inviter à identifier les divers moyens par lesquels augmenter et valoriser la présence des chevaux dans la vie quotidienne des Montréalais. J'ai tenu de tels propos chaque fois qu'il a été question des calèches au conseil municipal. La proposition numéro 1 du mémoire de Projet Montréal lors de la consultation publique de l'OCPM sur l'avenir du Vieux-Montréal fin 2012 était titrée « Revalorisation du cheval en tant que composante du patrimoine vivant de Montréal ». Le fait est que ce n'est qu'après l'élection de Mme Plante à la direction que Projet Montréal a fait un virage à 180 degrés, au motif que les calèches constitueraient une forme de cruauté exercée contre les chevaux. Durant 300 ans, dans toutes les situations imaginables, les Montréalais ont fait travailler leurs chevaux. Pas seulement les Montréalais durant 300 ans, mais l'humanité entière durant plusieurs millénaires. Et l'on viendrait nous dire aujourd'hui que tirer une calèche est une cruauté pour ces fragiles bêtes? Ceux qui souhaitent la fin des calèches propagent une image bucolique de ce qu'il adviendra des quelques dizaines de bêtes qui, selon eux, souffrent présentement le martyre dans les rues de Montréal. Elles seront recueillies par de véritables amoureux des animaux, vivront au grand air, s'ébrouilleront et paîtront dans des champs luxuriants et recevront tous les traitements médicaux et marques d'affection imaginables. Sans doute que quelques chevaux connaîtront ce sort enviable, mais la réalité demeure que la plupart prendront le chemin de l'abattoir. Car c'est oublier que nous vivons à l'ère de l'utilitarisme, voulant que ce qui ne nous est pas utile cesse d'exister. Au retrait de la dernière calèche de nos rues, le cheval aura définitivement fini de nous être utile. Pas seulement les bêtes qui vivent aujourd'hui, mais également la longue suite des générations qui pourraient naître et vivre si nous, les humains, avions à cœur de respecter cette forme attachante et noble, s'il en est une, du vivant, et avions l'intelligence de renouveler son utilité. Le jour où le tout dernier cheval disparaîtra des rues de Montréal, je verserai une larme. Pas vous? La routine santé de Jacinthe René. La comédienne et femme d'affaires Jacinthe René dit d'abord être en forme grâce à son alimentation 100% bio et végétalienne, mais surtout parce que ses trois enfants âgés de 2, 8 et 14 ans la gardent constamment en action. En les suivant et en les portant, c'est de cette façon que je reste en forme et ça me permet aussi de muscler le haut de mon corps, indique celle qui chapeaute trois maisons Jacinthe spécialisées en santé, beauté et bien-être, dont une à Québec. Son activité physique préférée reste la nage. L'été, Jacinthe René nage tous les jours. Je nage jusqu'à ce que mes doigts gèlent. De plus, pendant la belle saison, l'entretien de sa terre la garde très active. En revanche, l'hiver, elle privilégie l'entraînement à l'intérieur. Jacinthe René ne se fixe pas d'objectif précis. Mon seul objectif est de garder la forme et un bon tonus musculaire, de me sentir bien, raconte la mère de famille. Pour la comédienne, s'adonner à ses activités physiques quotidiennement doit se faire de façon naturelle. Avec sa trentaine d'employés à gérer, ses deux nouvelles maisons à venir, sa web télé et la publication de ses bookzines, Jacinthe René commence souvent ses journées avec quelques minutes d'étirement. Mais surtout, la comédienne, femme d'affaires et mère compte sur son alimentation sans faille pour maintenir une bonne santé. Et elle est plus qu'heureuse de partager ses trucs pour bien manger. Végétarienne depuis 28 ans et végétalienne depuis quelques années, Jacinthe René se nourrit essentiellement d'aliments bio, frais et vivant. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 19 mars 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à continuer de nous écouter si vous êtes en direct et par actualité suivent. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.